Nous tissons la trame de l'histoire.
Les urgences, une histoire immédiate.
Écoutez, moi, la paix, gros, je vais aller faire pipi. Non,
vous allez tomber.
Mais je vais faire pipi. Et vous n'allez pas m'empêcher d'y aller.
Ah, bah non, c'est sûr pas.
Non, on m'a déjà empêché deux fois. Et moi, je vais aller faire pipi.
C'est pour encore mon tour.
Non, bientôt.
Bientôt. Ça fait
une heure qu'on vous dit que c'est bientôt.
Oui, plus d'une heure. On est là depuis 2 heures, vous vous rendez compte?
Oui.
C'est ignoble, c'est honteux.
Il y a des choses qui sont supportables à un moment, et puis soudain, ça ne l'est plus. Par exemple, une nouvelle sensibilité aux accidents de la route explique pour une bonne part la naissance, il y a 50 ans seulement, en 1965, des SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation. L'urgence. Le mot survient à ce moment au centre de l'organisation des soins. C'est par le ministère de la Santé que les expériences pionnières trouvent leur chemin. Après les SMUR, ce furent les SAMU. C'est donc d'une histoire très récente que nous allons parler. Elle s'est écrite sous le signe du sanitaire, évidemment. Mais voilà que le social, refoulé par le souci de la performance, revient en force. Naguère, dans l'assommoir de Zola, quand le brancard arrive... Gervaise refuse violemment. Non, non, pas à l'hôpital. Les pauvres pensaient spontanément à d'autres recours. Mais aujourd'hui, quel lieu d'hospitalité leur reste-t-il? Pour prendre un exemple, les migrants érythréens et soudanais qui viennent d'être chassés sans ménagement de leur campement de la Chapelle peuvent être tentés d'aller droit aux urgences dans un hôpital de Paris. Quelle langue utilisera-t-on pour leur expliquer que le lieu n'est pas dédié à... l'aménité, mais à la technicité.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Charles-Antoine Vanek, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux de recevoir le prix d'histoire de la Sécurité sociale 2014. C'était pour un master, depuis vous avez passé l'agrégation et vous commencez maintenant un doctorat consacré à une part de l'histoire des urgences, parce que ce que vous avez étudié, ça va être le thème de notre première partie, c'est plutôt la logistique.
Oui, tout à fait. C'est la mise en place entre les années 1960 et la fin des années 70 de ces SMUR et de ces SAMU comme une sorte de politique publique orchestrée par le ministère de la Santé.
Alors souvenez-vous, non, vous êtes trop jeune, mais c'était le temps du médecin de famille, du médecin de garde et le système pouvait montrer des signes d'essoufflement, même si beaucoup le regrettent aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Le médecin de famille était souvent le premier appelé. C'est celui auquel on pensait en premier lieu lorsque un accident survenait, un problème de santé. Et malheureusement, on avait dans certains cas affaire à un médecin qui n'était pas disponible, pas assez rapidement sur place. Et on a eu d'ailleurs quelques procès, comme dans les années 60, 64, 65, plusieurs procès. Un procès en 64 du docteur Martin qui appelait en pleine nuit pour porter secours à quelqu'un qui avait été accidenté, blessé au cours d'une rixe, qui s'est trouvé attendre l'ambulance trop longtemps. Et
oui, parce qu'on lui avait dit 4h du matin, on a un blessé grave, ça saigne, il dit je m'habille, je vous attends. Et puis quand l'ambulance est arrivée, le blessé était mort, mais le juge d'instruction a jugé utile d'arrêter le docteur Martin, de le faire passer menotté de la prison de Nancy au palais de justice de Nancy, où évidemment un comité d'accueil organisé par les voisins et l'ordre des médecins l'a applaudi à tout rompre sous les flashs de Paris Match. Et il y a eu d'autres affaires.
Oui, tout à fait. Alors, souvent on mettait en évidence l'article 63 du code pénal qui a été mis en place sous Vichy, hein, la non-assistance à personne en danger, qui était une vieille loi qui, mise en place sous Vichy, était au départ censée appeler à la dénonciation des attentats et des agressions, mais qui comportait aussi cette dimension qui est un résidu et qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui.
Enfin, Vichy a du bon parce qu'il a organisé des expériences pilotes avec la Croix-Rouge, avec les organisations qui pouvaient être mobilisées au moment des bombardements. Là, il y a eu un apprentissage de l'urgence. Mais quand on était blessé, accidenté, qu'on avait commis, comme on disait à l'époque, une tentative de suicide, c'était... les pompiers, la police
qu'on appelait ou d'autres ?
L'un ou l'autre. Alors il faut savoir que les numéros 17 et 18 fonctionnaient dans certaines villes de France, pas toutes, depuis l'entre-deux-guerres. Mais évidemment, on faisait appel tantôt à l'un, tantôt à l'autre, tantôt au médecin. Parfois, on se débrouillait aussi avec quelques secouristes du voisinage, car c'était aussi une pratique qui a ses racines dans la Seconde Guerre mondiale, qui est plus ancienne, mais qui s'est vraiment mise en place, mise en forme avec les bombardements et, comme vous le rappeliez, cette politique en 42-43, notamment menée en France par la Croix-Rouge.
Je parlais des suicides, ce sont quand même surtout les accidents de la route qui ont interpellé, comme on disait dans les années 60-70, parce que tout de même, on en est aujourd'hui à 4000 morts, mais on en était à un peu plus de 8000 en 60 et à 15000 en 1970.
Oui, tout à fait, même le pic c'est 72, 16600 morts, et c'est très inquiétant en fait pour les autorités sanitaires du pays et pour certains médecins qui brandissent les chiffres, en montrant d'ailleurs que dans d'autres pays européens comparables, on va dire, la mortalité recule, alors qu'en France, elle continue d'augmenter.
Alors devant cette question, c'est le ministère de la Santé qui prend la main, alors que les structures que vous décrivez et qui fonctionnaient jusqu'ici dépendaient plutôt du ministère de l'Intérieur.
Voilà, tout à fait, c'est une prise de conscience, on pourrait dire, du ministère de la Santé, avec comme rôle d'aiguillon pour certains médecins qui viennent alerter justement le ministère de la Santé et une petite cellule de ce ministère, le bureau des secours d'urgence, qu'on appelait au départ le bureau de la protection sanitaire des populations civiles, encore une fois un héritage de la guerre, et son fonctionnaire René Coirier qui a joué un rôle tout à fait déterminant en rassemblant les initiatives et en essayant justement de mettre en évidence les dysfonctionnements.
C'est lui qui aurait inventé le mot SAMU qui va être repris en compte en 1973 par le ministre de la Santé d'alors, qui a été un grand ministre de la Santé. C'était la dernière année de Georges Pompidou. Georges Pompidou ne devait pas trop se préoccuper de la vitesse sur les routes. Il aimait bien ça. Et Michel Poniatowski, il faut le citer, il a posé les jalons de la politique de l'avortement et il a mis en avant le SAMU.
D'ailleurs, je ne pense pas seulement aux blessés de la route, je pense aussi aux blessés du travail et aux accidents, les empoisonnements, les tentatives de suicide, les chutes. Ce qui est important dans cette situation, c'est d'avoir une alerte rapide, une communication radio rapide, soit pour prévenir de l'arrivée des blessés, soit pour faire venir de l'hôpital les moyens de secours.
Le deuxième point, c'est face à un blessé, où le conduit-on, où le mène-t-on ? Nous allons définir les hôpitaux qui ont un plateau technique minimum, c'est-à-dire qui sont en mesure de soigner efficacement le blessé, qu'il s'agisse d'hôpitaux privés ou d'hôpitaux publics. Nous devons faire appel à un personnel spécialisé, spécialement formé pour la réanimation des blessés et les soins haut traumatisés et polytraumatisés. Et donc, il n'y a pas seulement un problème d'équipement, mais il y a un problème de formation de ce personnel. Comme les centres SAMU vont être réalisés dans le courant de 1974, je pense que, au fur et à mesure de leur ouverture, nous aurons le temps de sélectionner et de préparer ce personnel.
Un peu optimiste, Pogna, sur la réalisation dès 1974. Il va se retrouver d'ailleurs au ministère de l'Intérieur, lui. Ensuite, il présente l'hôpital comme étant le lieu du pilotage de l'affaire.
Oui, alors c'est une nouvelle vocation pour l'hôpital et d'ailleurs j'aime beaucoup rappeler cette expression qu'on trouve dans une circulaire de 65 au moment où tout cela se met en place, où le ministre de la Santé qui signe cette circulaire affirme que la vocation sanitaire de l'hôpital se précise. C'est une nouvelle fonction, un nouveau rôle pour l'hôpital qui jusqu'alors avait d'autres on pourrait dire fonction, l'accueil et le soin, l'hospitalité. En devenant secouriste et avec ces services d'urgence qui d'ailleurs sortent des murs de l'hôpital avec ces SMUR, on a affaire à une nouvelle pratique et une nouvelle représentation de l'hôpital aussi.
1970, c'est une loi sur l'hôpital décisive qui en suit deux autres qui ont été importantes et qui affirment la vocation technique de l'hôpital. Et c'est au personnel de l'hôpital de se projeter en avant vers les lieu où il est attendu, mais c'est au personnel de l'hôpital de former tous ceux qui vont participer à ces secours d'urgence. Mais les pompiers, ils sont formés, eux ?
Alors, les pompiers sont formés avec notamment le brevet de secouriste, qui est un brevet national de secourisme à partir de 1966, même si D'autres formes de brevets existent auparavant. La Croix-Rouge, notamment, a son diplôme depuis la Seconde Guerre mondiale. Et peu à peu, on forme les pompiers. Mais évidemment, la formation de secouriste n'est qu'une petite partie des compétences.
Mais il y a des médecins chez les pompiers à l'époque ?
Ah oui, il y a déjà des médecins dans les régiments de sapeurs-pompiers depuis les années 50 et même parfois dans certains cas depuis l'entre-deux-guerres. Or, ils ne sont pas systématiquement présents et au départ, ces médecins sont d'abord incorporés au régiment pour soigner les sapeurs-pompiers.
Mais il y a des ambulances chez les pompiers à cette époque-là ?
Il y a quelques ambulances, mais elles ne sont pas forcément équipées de tout ce qu'il faudrait, ou alors elles sont équipées de matériel dont les pompiers ne peuvent pas se servir, car ils n'ont pas les compétences nécessaires.
Alors je raconte tout ça parce que vous, dans vos textes, vous expliquez, Charles-Antoine Vanek, que la paix d'aujourd'hui qui règne entre les services fait oublier la guerre 15-18. Alors 18, c'est le numéro des pompiers. 15, c'est le numéro que vont finir par obtenir les SAMU en 1979. Le son que voici date de 1984.
Grave accident de la circulation aujourd'hui sur la
R. L'urgence, la détresse. Mais pompiers, policiers, Croix-Rouge et SAMU, les services de secours se les arrachent et le blessé est devenu un enjeu.
L'endroit le plus difficile, c'est sûr, c'est le SAMU de Paris lui-même. Beaucoup de concurrents sont en compétition, de SOS médecins, UMP, différentes urgences de Paris, etc. Pour l'urgence lourde, l'urgence importante, où il y a d'une part la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui fait un bon travail, et puis ce qu'on appelle PS SAMU, Police Secours SAMU, qui sur le plan de l'éthique, enfin sur le plan des principes, pose tout de même des problèmes.
Il y a deux points noirs en Île-de-France. Au niveau des relations SAMU-pompiers et peut-être parfois aussi même médecins de guerre des médecines privées, ce sont d'abord le Val d'Oise, où la guerre entre les rouges et les blancs, les pompiers et le SAMU fait toujours rage, et Paris Intramuros, la Seine, où les ambulances du SAMU sont conduites par des policiers et où il y a toujours des problèmes avec les pompiers.
D'être coordonnés par les SAMU, les sapeurs-pompiers n'y ont jamais été hostiles. Ce que l'on ne peut que difficilement admettre, c'est d'être dirigé par les SAMU.
Alors ce reportage de France 3 Île-de-France donne la parole essentiellement aux pompiers. Là, on entendait le colonel des pompiers de Pontoise. Et alors, Pontoise est un point chaud.
Oui, au début des années 80, 83, 84, on a là vraiment une guerre des urgences, hein, la guerre des rouges contre les blancs, comme on disait à l'époque, la guerre du 15 contre le 18, même si le 15 n'existe pas encore tout à fait à ce moment-là. Et en effet, à Pontoise, en 83, grande grève des sapeurs-pompiers, ils déversent un mètre de neige carbonique sur la place de l'hôtel de ville, et justement, ils s'opposent à l'arrivée des médecins de SAMU, et au fait finalement qu'il y ait une concurrence aussi rude avec ces médecins.
Mais c'est à Pontoise que vit le premier secrétaire du syndicat des SAMU,
voilà,
qui est créé au milieu des années 70.
Tout à fait, le syndicat national est créé par le professeur Laringue en 75, et son secrétaire général est le directeur du SAMU de Pontoise, ce qui en fait un enjeu évidemment.
Et alors quand une fondation de cardiologie donne une ambulance spécialisée aux sapeurs-pompiers, voilà que le syndicat des SAMU dit « c'est incroyable, c'est comme si on attribuait aux SAMU une grande échelle ».
Oui, tout à fait. Alors, en effet, les pompiers étant plus nombreux sur le territoire, plus visibles et parfois plus faciles à repérer que les médecins de SAMU par la population, il était plus facilement, plus aisé, fait appel aux pompiers. Et donc, par là même, on trouve une concurrence qui n'en finit pas et qui d'ailleurs, vous dites la paix aujourd'hui, c'est pas forcément toujours le cas.
Ah bon ?
Dans certains endroits, il y a quelques conflits qui continuent d'exister.
Par exemple ?
Moins fort.
Par exemple, vous parlez demain au congrès des urgentistes à la Porte-Maillot, par exemple.
Par exemple, une
guerre. Des conflits récents. Oui.
Ah bah, je crois qu'à Pontoise.
Ah, toujours à Pontoise.
Il y a toujours quelques petits heurts.
Mais moi, je croyais que les sapeurs-pompiers étaient passés sous les fourches caudines des SAMU.
Ah, pas complètement, même si la coordination et la loi de 86 qui a reconnu officiellement les SAMU a permis, avec les décrets d'application qui ont suivi, justement d'organiser de meilleure coordination des différents services, il en demeure pas moins que dans certains endroits, dans certains cas, on appelle et on se trouve face à un appel des deux services qui sont sur le terrain et qui sont en trop et qui se prennent les pinceaux, on pourrait dire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La série Urgence est notre thème aujourd'hui. Eh bien, l'urgence en médecine, la construction, Charles-François Vanek est notre invité, du métier d'urgentiste. Il n'y a pas qu'un seul métier d'urgentiste après la création des SMUR, 65 après la création des SAMU, 1973. Si les feuilletons et les séries télé sur ces sujets ont autant de succès, c'est que ça démultiplie les héros. Alors, il y a beaucoup de médecins et pas seulement des médecins, mais le héros peut être un ambulancier, le héros peut être un permanencier.
Tout à fait. Alors, en effet, puisqu'il faut agir en urgence, il faut décortiquer en fait le temps et chaque séquence temporelle doit être prise en charge par un acteur. Et en effet, les ambulanciers et les permanenciers sont deux figures très importantes qui sont des auxiliaires irremplaçables en quelque sorte du médecin lui-même qui devient progressivement urgentiste. Même si au départ, on a surtout affaire dans ces services à des anesthésistes réanimateurs qui voient leur profession se créer, s'institutionnaliser dans les années 60-70, et ils profitent d'ailleurs souvent de ces SAMU pour se faire reconnaître au sein des hôpitaux. Alors, concernant évidemment les permanenciers et les ambulanciers, c'est aussi la période où un certain nombre de textes et de réglementations permettent de fixer les choses et de leur donner une reconnaissance.
Mais il n'y a pas que les médecins des SAMU, il faut qu'on dise un mot de SOS médecins, puisqu'on parle de la série médecins de nuit. Alors, la permanencière, celle qui tient le standard, comme elle tient le bistrot de Navarro, c'est Catherine Allégret. Le scénariste,
Bernard Kouchner, c'est ça?
Ah non, Bernard Griden.
Griden.
Oui, oui. Bernard Griden, c'est évidemment, vous avez raison, le pseudonyme de Bernard Kouchner. Il fait aussi les dialogues. Alors, ça donne des choses du genre « Allô, Léon, j'ai une intoxication au coq au vin, au balto de la porte de Champéret, je fonce !» Et ici, le médecin arrive en face d'un supermarché.
Oh, merci, docteur. Je vous attendais tellement. Il me fait au moins un 41. Entrez. Excusez le désordre.
Oh, mais il est mignon, ce bébé. Ne vous inquiétez pas, madame, les enfants ont toujours beaucoup de température. Quel âge a-t-il?
7 mois.
Quel est son prénom?
Xavier.
Bonjour, Xavier. Bonjour, monsieur Xavier.
Touchez, docteur, son petit front, ses mains, il est brûlant.
Pourquoi n'avez-vous pas appelé votre médecin habituel à ce moment-là?
Je pensais que ça allait passer.
Vous avez une baignoire?
Oui. Vous allez le baigner, docteur? Vous êtes sûr?
Sa température va baisser et il se sentira mieux. Après, il ne faudra pas trop le couvrir.
Vous savez, docteur, c'est mon premier bébé. Des fois, je panique.
Vous habitez seule ici?
Non, je suis mariée. Je suis souvent seule. Mon mari est voyageur de commerce et il n'est pas souvent là. C'est pire que d'être restée fille.
Quel métier faites-vous?
Je travaille au supermarché en face. C'est bien commode parce que quand le petit est chez la nourrice, les collègues peuvent me remplacer, moi je peux venir l'embrasser.
Ce n'est rien, madame, une grosse angine. D'ici 3 jours, ça sera terminé.
3 jours? Comment faire, docteur? La nourrice ne veut pas le prendre avec la fièvre. J'ai personne, moi personne. Mon mari est absent pour la semaine. Faut m'arrêter, docteur.
Bien. Je vous fais un arrêt de travail de 4 jours. Ça, c'est l'ordonnance du petit Xavier. Sirop antibiotique, 4 cuillères mesure par jour, c'est le plus important. Voyez demain votre médecin habituel. J'ai fait un mot pour lui.
Combien je vous dois, docteur?
115 francs. Excusez-moi, on m'appelle.
Bah, nous serions les dialoguistes, Charles-Antoine Vanek, mais on n'a pas le talent de Kouchner. On mettrait bien une petite notation à la fin qui indiquerait que le médecin pourrait avoir envie de revenir chez cette femme qui est vraiment seule avec son mari, voyageur de commerce, comme on disait à l'époque. Parce que SOS médecin, c'est le relationnel.
Oui, tout à fait.
Alors, enfin, pas seulement, mais le relationnel joue beaucoup plus que dans les SAMU.
Oui, alors les SOS médecins fonctionnent surtout pour les urgences, on pourrait dire les moins graves, ou les urgences qui ne sont pas vitales, même si la hiérarchie des urgences est toujours très compliquée à établir. Et en effet, souvent, il s'agit en fait de remplacer en quelque sorte le médecin généraliste, le médecin de famille dont on parlait tout à l'heure, dans la mesure où connaître notamment la nuit ou pendant les périodes de vacances. Connaître la liste des médecins de garde n'est pas toujours évidente, notamment dans les grandes villes. Et c'est la raison pour laquelle SOS Médecins est créé en 1966 à Paris. Et ensuite,
tout ça, c'est la même époque.
C'est la même époque, tout à fait. On est vraiment à 65, fin des années 60. On a tout un faisceau d'initiatives qui, d'ailleurs, et c'est intéressant de le noter, qui répondent à des besoins particuliers, différents, on pourrait dire, puisque le SAMU, moyen très lourd pour des urgences très, très, très lourdes, très graves, et SOS Médecins pour une sorte d'entre-deux, des urgences plus légères.
Avec des voitures qui sont équipées de téléphones, mais qui n'ont pas l'équipement technique, bien évidemment, qu'ont les véhicules du SAMU. Alors, on se souvient peut-être, on ne va pas humilier l'ordre des médecins, des ennuis qu'a provoqué l'ordre des médecins à SOS Médecins, arrivant même un moment à faire enlever le mot SOS. Comment l'ordre des médecins, les médecins héritiers, des banalités, les mandarins, ont regardé toutes ces initiatives?
C'est pas toujours très bien vu. Alors évidemment, les médecins qui ont créé les SAMU, souvent au départ, ont été rejetés. J'ai eu des témoignages de médecins qui me racontaient que dans les réunions du Conseil de l'Ordre, ils étaient mis un peu à l'écart et que leurs initiatives nécessitaient un soutien fort de leur direction hospitalière. Et on peut voir que certains directeurs hospitaliers ont été particulièrement efficaces et ont été des soutiens très forts pour mettre en place ces services. Concernant SOS Médecins, on a des cas aussi très variables. Il faut voir que localement, les choses peuvent se passer plus ou moins bien. Et en effet, il y a eu un procès également, encore une fois, en 88-89 à Rennes, qui a conduit à l'interdiction de la publicité d'SOS Médecins, qui était vue comme une concurrence redoutable pour la médecine libérale traditionnelle.
SOS Médecins a retrouvé son nom, son assise, congrès en même temps que celui des urgentistes, cette semaine à Dijon de SOS Médecins. Je voudrais qu'on en dise un mot, parce que peut-être vos recherches maintenant vont vous amener vers l'hôpital, de l'évolution des services d'urgence. Quand on a fait la loi de 70 à la suite de deux autres, qu'on a technicisé les urgences, on avait éliminé dans l'esprit du législateur et des professeurs de médecine qui conduisaient le projet le rôle d'hospitalité sociale de l'hôpital.
Effectivement, c'est une dimension qui a été peu prise en compte à l'époque, alors qu'on voit bien que cette question était déjà posée dans les années 50-60 dans les services de porte, comme on les appelait, ou les services d'urgence, comme le vocable s'est peu à peu imposé. Et c'est seulement en 75 qu'il a fallu attendre 5 ans, effectivement, après cette grande loi hospitalière de 1970, pour qu'une circulaire du ministère de la Santé précise les choses et définisse les missions précises et les conditions d'accueil dans les services d'urgence.
C'est-à-dire
que c'est un service à part entière dans l'hôpital qui a justement un chef de service, un médecin qui est détaché à cela et un service qui doit avoir en permanence un certain nombre de lits de réserve disponibles pour les urgences qui se présentent.
Parce qu'on a beau améliorer la logistique, aux deux bouts de la chaîne, il reste la misère à l'hôpital et la misère dans la société qui se rencontre. On a parlé du 15. Et le 115?
Alors le 115 a été mis en place par un médecin passé par les SAMU, formé dans les SAMU, hein, par le professeur Huguenard à Créteil. Il s'agit donc du docteur Xavier Emmanuelli, qui a créé en 1993, soutenu, comme il le raconte par le maire de l'époque, Jacques Chirac, à Paris, donc ce 115, qui s'est généralisé ensuite dans d'autres villes de France, et même, je crois, à l'étranger.
Reportage à Robert Debré à Paris.
J'appelle le 115. Je l'appelle. Après, ils me disent « Non, madame, il n'y a pas de place à 10h, 10h30 le soir. » Alors, c'est le premier chemin pour moi, c'est l'hôpital.
Et à l'hôpital, on vous a donné une chambre?
Il m'a donné une chambre, le médecin. Et après, je reste dans l'urgence, ils me donnent une couverture. Ils m'ont donné à manger. La journée, je passe à l'hôpital aussi. Et je dors sur le banc à l'urgence jusqu'à le matin. C'est au moins au chaud.
Émilie Adam est assistante sociale à l'hôpital Robert Debré.
J'ai toujours rencontré aux urgences des familles en grande précarité, sans hébergement, pour qui on n'a rien à proposer, si ce n'est une mise à l'abri effectivement à l'hôpital, pour ne pas qu'elle reste dehors. Il y a une maman avec sa petite fille de 7 ans qui est revenue 2 fois la semaine dernière. Et quand elle n'était pas à l'hôpital, elle était dans le hall d'un immeuble.
Nous ne sommes ni centre d'hébergement, ni hôtel social. C'est une confusion des genres. Le service d'urgence, c'est pour prendre en charge les vraies urgences. Et donc, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. C'est vraiment pas possible, si vous voulez, de continuer comme ça.
Alors ça, c'est la colère du chef des urgences pédiatriques de Robert Debré, Jean-Christophe Mercier, au micro de Yann Gallic sur France Inter. Alors pour ce chef de service spécialisé, comme vous l'expliquiez, François-Charles Vanek, il faut une séparation très nette. Mais l'hôpital n'est pas, dans l'esprit du public, seulement le lieu de du diagnostic automatique et technique.
En effet, c'est aussi un lieu d'hospitalité, comme son nom l'indique, et on voit bien qu'aujourd'hui, la queue qui se forme dans les services d'urgence et la demande, la pression sociale, on pourrait dire, de toute une catégorie de la population qui a besoin de trouver un lieu où être hébergé, mais aussi où pouvoir confier un certain nombre de problèmes, est essentiel. Et d'ailleurs, on voit bien que l'urgence, comme on dit, sociale, qui conduit des sans-abri ou des personnes en grande précarité à l'hôpital, est en fait une urgence qui couvre plusieurs dimensions, qui n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de toit ou de ne pas avoir de lit, c'est aussi parfois la nécessité de prendre en charge des pathologies qui sont invisibilisées par la misère ou par les conditions de vie difficiles.
Maintenant, après avoir fait l'histoire immédiate des services d'urgence, vous allez remonter plus loin dans le temps et les médecins qui ont encore des lettres vous expliquent que les pauvres qu'on retrouve dans les urgences rappellent étrangement les malades du dispensaire de Céline avant-guerre. C'est là qu'il faut aller chercher les demandes du public.
Oui, les demandes du public, on les retrouve justement dans ces asiles qui existent depuis le 19e siècle et qui en fait ont été colmatés dans certains services d'urgence, même si cela n'a pas été mis en lumière dans les années 70, lorsqu'on a créé des services techniques qui ont mis ces demandes de la population de côté, et car n'étaient pas en fait des demandes attractives pour des médecins qui voulaient souvent aussi mettre à profit leurs découvertes et les techniques dont ils disposaient.
Mais quelle que soit l'excellence des personnels d'urgence, le malade, il est ballotté entre des techniciens de micro-spécialités, entre lesquels il passe, attendant longtemps le passage de l'un à l'autre.
Oui, voilà. Donc la question de la création d'une médecine d'urgence à proprement parler, reconnue comme une forme de spécialité, même si ça n'est pas encore complètement consacré depuis 2004, hein, suite à la canicule et à la pression du syndicat, est une volonté aussi de créer justement une médecine qui soit capable de prendre en charge des pathologies très diverses, qui sont réunies en fait par cette catégorie de l'urgence qui est parfois bien difficile à saisir.
Moi, je vous recommande, parce qu'on peut pas encore lire vos textes, avant de produire le prochain, de faire comme le vieux Jean Pénef qui s'est fait embaucher comme, il est sociologue, brancardier dans un service d'urgence et puis qui a raconté ce qui s'y passait. Mais peut-être, si vous procédez ainsi, vous n'aurez pas le prix de la sécurité sociale dans les années qui viennent. Merci à vous, François-Charles Vanek. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, Franck Olivard, Frédéric Martin et Lina Negulesco pour la préparation et la technique, Guillaume Roux.